Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout.
Mais jamais rien.
L'alimentation durable, voilà un terme de plus en plus récurrent, mais que signifie-t-il réellement ? Ce mode de consommation interroge la nécessité de changer nos modes de production et de consommation alimentaire pour mieux satisfaire les besoins nutritionnels, résoudre les problèmes de santé publique et préserver l'environnement. Aujourd'hui, nos supermarchés croulent sous les produits consommables et l'espérance de vie augmente. Mais si le constat semble être rassurant, le développement de maladies telles que l'obésité, le diabète et le cancer pointe du doigt ce mode de consommation. Au début du siècle, l'industrie a commencé à raffiner tous les produits de base comme la farine, le sucre, les huiles en enlevant le germe de blé, les fibres et en chauffant les huiles, conduisant à une forte diminution des teneurs en vitamines et acides gras essentiels et générant des composés toxiques, notamment dans les huiles. Mais alors pourquoi raffiner ? Les aliments raffinés n'apportent que des calories vides car très appauvris en vitamines et oligo-éléments, nutriments catalyseurs indispensables à une bonne assimilation. En effet, la digestion fait intervenir des réactions biochimiques qui consomment ces catalyseurs. S'ils ne sont pas présents dans l'aliment, ils seront prélevés dans l'organisme qui verra ainsi sa réserve s'appauvrir, d'autant qu'elle n'est pas ou peu renouvelée. Il est médicalement absurde de raffiner des aliments car alors, leurs calories et leurs matériaux nutritionnels se comportent en parasites plutôt qu'en alliés, favorisant les maladies de surcharge et le processus de cancérisation. Le but principal du raffinage est de prévenir l'altération de ces aliments en supprimant des substances réactives et ainsi de pouvoir les stocker en grande quantité. Stockables, oui, mais au détriment des trois quarts de leurs nutriments, des vitamines et des fibres. L'alimentation industrielle se caractérise donc par une forte transformation des produits bruts, un régime alimentaire riche en produits raffinés, en sucre rapide, en graisses saturées, en sel, en viande, pauvre en aliments de base non transformés, pauvre en céréales, en fruits, en légumes et souvent carencé en fibres et micronutriments essentiels, avec un gaspillage égal à 40% de produits jetés et enfin, des distances importantes entre le producteur et le transformateur, ainsi que celles parcourues par un consommateur pour s'approvisionner. Une étude a ainsi démontré qu'un simple yaourt à la fraise avait parcouru 9000 km d'un pays européen à l'autre en raison de la séparation des tâches et en additionnant les parcours de tous les composants, lait, sucre, additifs, peau, couvercle, étiquette. L'alimentation durable semble être la réponse à ces problèmes. Elle repose sur trois piliers qui sont l'environnement, l'éthique et la santé. Les citoyens prennent en main cette problématique, comme à Concoret, le 31 octobre 2016, où une rencontre a eu lieu sur le thème de l'alimentation durable en partenariat avec le CPIE du pays de Brocéliande. À cette occasion, de nombreux acteurs en faveur de cette alimentation se sont rencontrés, parmi eux quatre cuisiniers de renom qui sont venus former les membres du réseau de l'ambassade du jardinage et du bien-vivre alimentaire dans les cuisines de Concoret sur les principes de la cuisine nourricière. Voici donc une rétrospective de cette rencontre du 31 octobre dernier.
Bonjour messieurs, dames. Nous on est donc là parce qu'on a eu le plaisir d'animer un stage de cuisine pendant 3 jours, enfin il s'est terminé à midi là, avec une vingtaine de personnes venues des quatre coins de France, sur un sujet qui nous est cher, puisqu'on parle d'alimentation durable, forcément on parle de cuisine, et nous, le sujet qui nous réunit tous les quatre, ce sont les cuisines que l'on appelle nourricières. C'est-à-dire que le but c'est de cuisiner pour nourrir les gens. Et malgré qu'en France, on soit dans un pays où le bien manger, on sait ce que ça veut dire, globalement, on ne forme pas beaucoup les gens qui nourrissent leurs contemporains. Donc c'est pour ça que dans les cantines scolaires, on a pas mal de retard, qu'il y a pas mal de choses qui posent problème. Et nous, on s'est attelé à cette thématique-là depuis un certain nombre d'années. Ça fait un bout de temps que je dis ça fait 20 ans. Et puis il y a des gens qui me disent, putain, ça fait 5 ans que tu me dis, ça fait 20 ans que tu t'occupes de ça. Donc effectivement, ça fait quelques années, quoi. Donc, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu ce contenu de cuisine nourricière, parce que c'est un concept qu'on a posé et qu'on décline depuis longtemps, et qui fonctionne assez bien, et qui est tout simple. Le but, c'est de cuisiner pour nourrir les gens sur leur lieu de vie, nourrir les populations, là où elles vivent tous les jours. Donc c'est très simple, quand on veut se nourrir, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on ait une cuisine qui soit simple. Pas besoin de faire des choses très compliquées, avec des tas d'ingrédients, parce qu'on veut copier les strass et les paillettes de la gastronomie. Nous, on est là pour cuisiner et enrichir l'ordinaire de nos vies de mangeurs. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est très technique. Donc quand on veut cuisiner simple, on met peu d'ingrédients, et on met des ingrédients de bonne qualité. Et ces ingrédients, on va leur laisser toute la place possible et les transformer de la meilleure façon possible pour que leur potentiel gustatif s'exprime. Donc, on dit toujours, mettez-en moins, mettez-en mieux, vous nourrirez mieux les gens dont vous avez la charge de la restauration. Donc ça, c'est le premier point fondamental d'une cuisine simple. Après, c'est une cuisine qui se doit d'être digeste. Il est quand même très important que quand les gens se sont bien nourris, globalement, la digestion soit paisible, agréable, facile, sans aucun problème, parce que les produits de qualité ont été cuisinés avec peu de graisse, pas trop de sucre, et bien cuits, donc parfaitement digestes. Moi j'aime bien prendre des exemples des desserts de la gastronomie, très riches en œufs, très riches en beurre, très riches en sucre, festifs certes, mais très difficiles à manger, et certainement pas tous les jours. Donc on a réfléchi sur des desserts qui sont à vocation nutritive, affirmé, affiché et en même temps agréable à manger parce que le mangeur doit toujours garder le plaisir de manger. Donc c'est simple, c'est digeste, c'est accessible, ça ne doit pas être élitiste et coûter très cher. Donc on doit pouvoir nourrir tous les jours facilement et que ça soit à bon marché. Et ça doit être aussi abondant. Et ça c'est un critère que je trouve extrêmement intéressant, c'est que quand on mange des choses très digestes, on peut abuser, on peut manger beaucoup, prendre, reprendre, abuser sans s'abuser, sans se dire « Oh là là, c'est bon, j'en ai pris 3 parts, je vais payer. » Eh ben non, c'est facile, c'est digeste, c'est agréable à manger. Ça nous construit et ça nous permet de vivre bien notre vie de tous les jours. Donc, je passe la parole à mon collègue Gilles, qui est un spécialiste de la cuisine dite alternative.
Difficile de parler après Monsieur Thierry Marion, je suis content d'avoir un micro. Alors, voilà, on travaille effectivement ensemble sur cette notion de nourrir au quotidien. Et quand on parle aujourd'hui d'alimentation durable, on voit que les territoires nous produisent et peuvent nous proposer des produits frais, des produits de saison, et une variété d'aliments qui va du végétal à l'animal. Et personnellement, donc j'ai eu une carrière de restaurateur à Nantes pendant 22 ans. J'avais un restaurant Centre Nantes en 100% bio où j'avais choisi de faire découvrir en fait ces produits des filières locales, des filières bio, ce qui était disponible localement. Et j'avais choisi de faire ce métier de restaurateur parce que je me rendais compte à l'époque que ce qui était proposé dans les catalogues de produits bio ou par les fournisseurs qui déjà avaient changé un peu leur façon de produire, globalement n'étaient pas mangés par les gens. C'est-à-dire que on avait des viandes qui paraissaient beaucoup trop chères et inaccessibles en termes de prix. On avait des produits laitiers également qui étaient beaucoup plus coûteux, des fois deux fois et demi plus chers. On avait des produits secs comme des céréales complètes, ou demi-complètes, ou raffinées, on avait des légumes secs. Et déjà dans les années 80, on mangeait plus beaucoup de lentilles, on mangeait presque plus de haricots, de pois cassés, et on mangeait pas du tout de millet, pas du tout de sarrasin, qui sont pourtant des graines qui ont une histoire dans l'ouest de la France. Et moi, je voyais ça sur les catalogues de produits bio, et je me suis dit, il faut créer un lieu où les personnes vont pouvoir faire l'expérience de découvrir ces cuisines et ces produits. Et j'ai choisi de le faire sous l'angle de la cuisine végétarienne. Non pas pour dire aux gens « c'est pas bien la viande », mais plutôt pour accompagner les gens à élargir leur répertoire alimentaire, leur répertoire culinaire, et d'être capable de manger peut-être un peu moins souvent ou un peu moins en quantité des viandes produites d'un producteur qu'on connaît ou d'un territoire proche, avec un juste prix, avec des méthodes qui font que dans 5 ans, dans 15 ans, 20 ans, on est toujours un sol en état de produire, une eau du robinet qu'on peut boire, des abeilles qui butinent, des agriculteurs et des éleveurs qui vivent de leur métier. Et pour moi, faire de la cuisine végétarienne, c'était montrer des outils supplémentaires qui aidaient un peu une population assez large, parce que j'étais centre Nantes, au prix d'une pizzeria en 100% bio, les gens découvraient tout type de public, pas seulement des bio, pas seulement des végétariens, des produits qui ne faisaient pas partie de leur répertoire alimentaire. Alors, Thierry vient d'utiliser le mot de cuisine alternative. En effet, c'est un mot qui vient de ces années 80, où déjà, des instances de santé publique, l'Institut Pasteur de Lille, sur les questions nutritionnelles, avait publié un livre qui s'appelait « Manger autrement ». Et dans ce livre, il était proposé de faire l'expérience du libre choix dans une cantine, d'avoir à côté du plat de viande, à côté du plat de poisson, la possibilité, suivant l'humeur, suivant les goûts, suivant l'attrait du plat, de plats basés sur l'association des céréales, des légumes secs qui sont riches en protéines végétales, et de le faire sous la forme de plats qui soient chaleureux et attrayants pour les gens. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon restaurant. J'ai développé des techniques. On s'est rencontrés avec Thierry alors que déjà depuis une dizaine d'années, j'avais participé au premier programme dans les cantines dans le sud de la France qui visait à mettre une connexion entre les producteurs et les producteurs qui essayaient de produire mieux et les cantines. Et donc l'idée, c'était de mettre ces savoir-faire de cuisine végétarienne ou cette cuisine alternative, c'est-à-dire qui nous permet de ne pas manger toujours la même chose, toujours de la protéine animale, toujours les mêmes légumes toute l'année, toujours les mêmes huiles industrielles mono-oléagineux et toujours dans une alimentation souvent très sucrée, très riche, et de proposer justement des alternatives. J'ai développé des savoir-faire dans cette restauration quotidienne. Et on s'est rejoint avec Thierry à la fin des années 2000 dans des programmes de territoire où il y avait ce besoin d'accompagner les cuisiniers, des cantines et des collectivités sur l'élargissement de leurs techniques et surtout des techniques qui leur permettent de faire plus de cuisine maison, de travailler avec les produits de saison. Et puis peut-être, comme l'accessibilité est une notion importante et pour ceux qui gèrent les collectivités, comme pour la mère de famille ou le père de famille qui tient le budget familial, le budget est important, de retrouver à travers cette diversité des protéines animales et végétales la possibilité, puisque les protéines végétales coûtent très peu cher, d'avoir aussi une maîtrise du budget quand l'alimentation devient plus qualitative. Avant de passer le relais à mes collègues, donc vous dire que c'est quelque chose qui se poursuit. Moi, ça fait 30 ans que je fais des cours de cuisine pour les particuliers, maintenant une vingtaine d'années sur les cantines, et que quand on parle aujourd'hui de cuisine alternative, comme on l'a fait pendant 3 jours ici, avec des ambassadeurs qui, à leur tour, un peu sur tous les territoires en France, sont des relais et des accompagnateurs pour accompagner la cuisine du quotidien vers tout type de public. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'enrichir le quotidien et la vie des gens. Cette cuisine alternative n'est pas une cuisine de l'appauvrissement, de la pauvreté, qui vise à priver les gens de l'aliment qu'ils aiment. Très grande majorité, presque la totalité du peuple français aime la viande. Mais quand cette viande est quotidienne, avec les budgets qu'on a, on l'achète pas très cher, avec des modes de production qui ont des effets indésirables sur pas mal de plans. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire découvrir ces cuisines comme quelque chose qui accompagne un changement. On apprend à manger autrement, on apprend à cuisiner autrement. Et on a rencontré, comme ça, d'autres cuisiniers qui avaient cette sensibilité, et notamment Bruno Couder.
Voilà, donc moi, je suis cuisinier et restaurateur à Lyon il y a une trentaine d'années, avec un parcours d'une dizaine d'années en restauration traditionnelle, comme on appelle gastronomique. Et puis ensuite un passage en collectivité comme cuisinier, et ensuite maintenant depuis une quinzaine d'années un parcours de formateur. Il y a 6 ans, disons qu'entre 2008 et 2010, je décroche, je pars à l'étranger voyager, et je reste 6 mois entre le Népal et l'Inde en 2010, Je reviens en Anjou m'installer pour je ne sais pas encore ce que j'allais faire. Je rencontre Thierry Marion et Gilles Davaux. Et j'arrive d'un pays où j'avais pendant 6 mois mangé du riz, des lentilles et des légumes tous les jours. Un petit morceau de viande de temps en temps. Et j'étais revenu avec une espèce de bouleversement, vous savez, ça m'avait, comme un tsunami, ça m'avait secoué. Et je revenais avec plein de questions, avec surtout plus de croyances, et j'avais besoin de reconstruire ce qu'ils faisaient dans leur métier, qui se reliait à mon métier de formateur auparavant et mon métier de cuisinier. Il y a eu une étincelle, j'ai, à travers ce qu'ils disaient, compris, relié ce qu'on a dit aussi pendant ces 2 jours, c'est-à-dire le pourquoi on cuisine, le pourquoi on choisit, pourquoi on fait telle technique. J'ai reconstruit des savoir-faire et des connaissances différentes. Et depuis maintenant quelques années, je suis régulièrement avec eux sur des formations et on structure petit à petit un petit groupe pour relayer ce travail qu'ils ont déjà initié il y a pas mal de temps et qui, pour moi, dans mon parcours, mérite d'être petit à petit relayé de plus en plus parce que ces cuisines nourricières, ces cuisines du quotidien, c'est ce que j'avais aussi vu dans les voyages. C'est-à-dire que manger une fois de temps en temps au restaurant gastronomique, comme je faisais il y a 25 ans, en croyant que c'était le nec plus ultra, c'est quelque chose qui marche dans la tête, mais au quotidien, ça n'est pas du tout ça. C'est bien manger au quotidien, c'est bien s'alimenter, donc c'est manger des produits de qualité, savoir bien les cuisiner qui est important. La fête, et je l'ai vu aussi dans mes voyages, c'est-à-dire que faire la fête, faire un événement, un mariage ou autre événement, ça se pratique dans tous les pays. Et là, pendant quelques jours, on fait une fête où il y a de la viande, souvent en grande abondance, avec beaucoup d'autres produits. Mais le reste du temps, l'alimentation est beaucoup plus simple. Elle est aussi celle que finalement j'avais un peu connue dans mon enfance. Mes grands-parents, mes parents ne mangeaient pas non plus de la viande tous les jours. Tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et je suis content de participer vraiment à cette histoire. Et depuis ces 2 jours, là où on a encore beaucoup rebougé de choses, on est un peu fatigué, vraiment, je le dis parce que moi je le ressens très fortement. Je ne sais pas si ça se sent, mais moi je le sens. Et en tout cas, avec une envie de continuer. Et voilà, donc je passe la parole à Christelle qui nous a rejoint aussi.
Alors moi je suis un petit peu la cadette dans l'aventure, la jeunette, c'est sympa de m'appeler comme ça. En fait on a comme point commun à un moment donné à avoir remis en question, comme tu le disais Bruno, moi j'étais formée en cuisine depuis, c'était il y a 13 ans, et j'ai appris la cuisine traditionnelle, je viens du sud-ouest, pays du canard, de la viande aussi, et à un moment donné, dans le cadre de mon parcours, je suis partie habiter d'autres régions. Et là, premier flash, je me suis dit, mais en fait, je suis partie vivre dans le sud-est. Ici, on ne mange pas pareil. Et je ne suis pas là pour transposer mon alimentation sur un autre territoire, mais je suis là pour prendre ce que le territoire a à m'offrir. Ça a été la première démarche. Deuxième démarche, elle a été professionnelle, c'est-à-dire que j'ai intégré tout ça aussi à ma manière de travailler. Et j'ai eu l'opportunité, c'était dans les Alpes ou d'autres provinces, de travailler sur un territoire où il y a énormément de producteurs. Et à ce moment-là, c'est ouvert à moi le monde d'abord végétal, que je connaissais un peu parce que j'ai été élevée avec des parents qui avaient un jardin, je connaissais bien la saisonnalité. Mais là, tout à coup, moi, dans mon métier, j'ai découvert le végétal, le produit, la céréale, les légumes secs. Et tout d'un coup, mes croyances aussi se sont petit à petit effilochées pour me dire, moi, en fait, je me rends compte, et moi la première, malgré ma technicité, on va dire, en cuisine, que je ne sais pas cuisiner vraiment bien de céréales. Des légumes, j'ai appris, et je me suis formée. De là, la demande a été faite, pas mal, par des gens, de me dire, mais pourquoi tu n'animerais pas des ateliers de cuisine? Et je suis partie à Nantes, et j'ai rencontré Gilles Davaux, et après, qui s'ensuit, Thierry, Bruno. Et les belles aventures ont commencé. Sur cette même idée, à un moment, c'est comme j'ai pu le vivre en partant donc dans le sud-est, c'est qu'à un moment donné, je crois que notre regard change notre posture change. Est-ce que ce qui est offert avec les cuisines nourricières, c'est nous, on est peut-être à un démarrage d'une question, mais là, on trouve des réponses et une vraie application. Et application sur laquelle on se retrouve aussi, une application quotidienne. Le sens de l'alimentation, c'est vraiment fort chez nous, c'est le quotidien. Et après, j'adore moi aussi aller manger dans des grands restaurants, mais c'est pas ça qui nous nourrit quotidiennement. Et on se rend compte, mais on en parlera plus tard, que même si on est volontaire à vouloir changer, il y a quand même une grande défaillance dans la technicité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien cuisiner les céréales, les légumes et les légumes secs qui peuvent amener des variantes et des variations infinies dans notre alimentation au quotidien. Voilà.
On appelle ça les cuisines nourricières parce que nourrir les gens tous les jours sur leur lieu de vie, c'est forcément multiple. Donc il n'y a pas la cuisine nourricière, ce sont les cuisines. Et notre objectif, c'est que les gens puissent manger goûteux, pas coûteux, digeste, facile. Alors, on fait une offre alimentaire simple, peu d'ingrédients comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça nous demande aussi une véritable performance technique. C'est-à-dire que la juste transformation des produits, surtout si on les a achetés de qualité, donc un peu plus cher, demande aux cuisiniers et aux cuisinières d'être vraiment performants et donc de comprendre ce qu'ils font. Et j'aime bien dire qu'en gastronomie, alors je ne suis pas antagoniste de la gastronomie, je suis juste gêné qu'on ne parle que de gastronomie, que toutes les émissions populaires et très médiatiques ne parlent que de gastronomie, qu'on nous rabâche les oreilles avec le top chef, le master chef, la perfection, le presque parfait, le plus que parfait, alors que nous, on veut enrichir l'ordinaire. Et pour enrichir l'ordinaire, ce n'est pas l'excellence qui compte. L'excellence du grand chef étoilé, c'est très bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, on a besoin de défendre la performance. C'est une vraie performance au quotidien de pouvoir mettre des produits de qualité qui rétribuent convenablement les producteurs, qui protègent les terroirs et les territoires, qui nourrissent convenablement les gens, qui permettent de reconsidérer les cuisiniers et les cuisinières. Il y a cette notion de honorer le produit, honorer le cuisinier, permettra d'honorer le convive. C'est tout ce que je voulais rajouter.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson, qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson, qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, ridiette du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin. Et bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette air polisson, qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Gabriel, du cœur, donc il vient du cœur, c'est sûr que... les droits de l'homme, là, vous voulez... Ils ont dit souvent que les hommes sont des cochons, enfin, c'est ça le... Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon,
c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Tu sais ce qui est bon?
Non.
Tu sais ce qui est bon? C'est cochon. C'est bon.